L'apôtre Paul nous propose de passer en mode guerrier. Alors évidemment, pas n'importe comment, ni contre n'importe quoi, ni contre n'importe qui. Alors pourquoi cette image violente ? Parce qu'il y a manifestement plus qu'une petite bricole à faire dans le monde. Ce serait plutôt un combat afin que la volonté de Dieu, de notre Père céleste, soit un peu plus faite sur la terre comme au ciel, nous dit Jésus dans sa prière. Alors cette prière, ce n'est pas une façon de nous défausser sur Dieu. Maintenant, tu es au courant de ce qui se passe sur terre, à toi de jouer. La prière, c'est un acte de responsabilité qui nous engage, nous. Il ne suffit pas de se plaindre de l'état des choses, il ne suffit pas d'avoir de belles intentions dans notre prière. C'est nous tous, autant qu'il y a de bonne volonté, que Jésus appelle dans l'Évangile à s'engager. Il nous dit, il faut que nous fassions les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut rien faire. C'est pourquoi Paul nous invite à devenir en quelque sorte un chevalier dans le texte célèbre que je vais vous lire dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Et c'est pour ça que j'ai mis sur le petit livret une image de François d'Assise, parce que lui-même était d'abord parti à la croisade avec une magnifique armure que lui avait offert son père très riche. Et puis en chemin, il a donné son armure à un pauvre bonhomme qui partait lui aussi aux croisades sans équipement. Et puis, François d'Assise est parti sur un autre mode de combat bien intéressant. Alors je vous propose donc cette lettre aux Éphésiens au chapitre 6. Soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre le sang et la chair que nous luttons, mais contre les principats, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde de ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, de tenir bon. Oui, tenez bon. Saignez vos reins de vérité. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds les bonnes dispositions que donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ô Éternel, par l'étude de nos écritures anciennes, ouvre-nous dès maintenant à ta force, à ta bonté, à ton esprit qui est source de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors Paul nous interpelle donc, soyez puissants dans le Seigneur par sa force souveraine. Revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable. Alors donc voilà des précisions sur l'adversaire que nous aurions à combattre, le diable. Seulement la traduction ne nous aide pas, ou plutôt l'absence de traduction. Car le mot « diable » en français est devenu le nom d'une sorte de dieu méchant ou de créature mystérieuse, invisible, malfaisante, dont certaines personnes en sont venues à croire à l'existence. Mais dans le grec du Nouveau Testament, le mot « diabolos », donc qui est juste décalqué en français, c'est le nom d'une fonction. Ce n'est pas le nom d'une créature. Cette fonction, c'est celle du démolisseur. Cela désigne toute personne, tout facteur qui brise, qui divise, qui fait exploser une construction ou un groupe pour en éparpiller les morceaux façon puzzle. Donc éparpiller les éléments, ça se dit diaballo en grec. Lutter contre le diabolique, c'est donc chercher à travailler au niveau de la source du mal, de la division, de la haine, de la violence, plutôt que de mettre seulement un pansement sur les symptômes. Bien sûr, c'est comme ça qu'il faut faire. Le chaos est le premier, est l'état premier de toute chose. Et tout est tiré de lui, évidemment, puisque c'est l'état premier de toute chose, et tout tend à revenir à cet état de chaos. C'est ce qu'on appelle en physique le principe d'entropie, ou le deuxième principe de la thermodynamique. Et par conséquent, face à ce chaos, que quoi que ce soit existe est déjà une merveille étonnante. Et qu'en plus il y existe des choses bonnes, et qu'en plus l'univers soit beau, c'est absolument miraculeux. Alors quand les Hébreux composent la première page de la Bible, celle qui ouvre la Genèse, ils reprennent en fait des récits de création qui datent depuis l'aube de l'Écriture, qui ont déjà plus de 2000 ans quand les Hébreux s'en emparent. Ces récits comportaient un Dieu bon et créateur face à un Dieu destructeur, méchant. Les Hébreux reprennent ce récit, mais ils gardent uniquement le Dieu créateur. Il ne combat plus contre un Dieu méchant, contre un diable, si on veut. Il combat, ou plutôt il travaille sur le chaos, afin d'en tirer quelque chose de bon. Et c'est la mission donc à laquelle nous sommes appelés par Jésus dans l'Évangile. Alors avant d'en être là, d'être capable de créer du bon, il nous faut d'abord être capable de résister, nous dit Paul, contre les méthodes du diable, les méthodes de tout ce qui, de tout facteur de chaos croissant dans l'univers, autour de nous, en nous. Et donc, pour être capable d'abord de tenir bon. Alors, la première source de chaos, c'est le chaos lui-même. Il tend à être contagieux, comme la peste bubonique à l'époque de François d'Assise. Et donc le chaos engendre du chaos, de la souffrance et de la mort. Nous devons donc effectivement, avant d'aller en contact avec le chaos, nous armer pour tenir bon face au chaos qui nous frappe. Alors il y a du chaos qui nous frappe, un chaos résiduel dans l'univers. Ce sont les catastrophes comme un tsunami, comme une maladie, comme un deuil, comme un loup qui décime un troupeau alors qu'il pourrait manger une seule petite brebis, il faut qu'il en tue 40, comme les hasards de la vie, heureux mais aussi malheureux, qui peuvent nous atteindre. Nous avons donc à tenir bon face à ce chaos, les hasards de la vie, et nous avons à tenir bon face à cette autre source de destruction et de méchanceté qu'est l'homme. Alors cela nous touche évidemment peut-être encore plus, et ça nous traverse tous plus ou moins évidemment. Le chaos, c'est l'arme de révolutionnaire. C'est aujourd'hui, mais ça ne date pas forcément d'hier, c'est aujourd'hui aussi l'arme de certains puissants que de faire voler en éclats l'état de droit, le respect, la société, la démocratie, la vie. Mais c'est aussi, bien sûr, un chaos qui est à l'œuvre dans les familles, dans les entreprises, entre voisins, en nous-mêmes aussi, dans le désespoir. Et donc il faut tenir bon, ne pas se laisser contaminer par cette source de chaos, mais même finalement, face à des personnes méchantes qui sont source de chaos, ce n'est pas contre la chair et le sang, ce n'est pas contre telle ou telle personne que nous avons à lutter, mais d'aller en amont de ça, d'aller lutter contre ce qui fait que cette personne peut parfois être source de chaos. Paul nous dit qu'il nous faut chercher donc en amont de ces symptômes les forces, les ressorts, les puissances, les principats qui sont dans le spirituel finalement, qui sont quelque part dans l'homme, dans la personne, et qui la conduit parfois à faire du mal, alors que ce serait tellement plus agréable et tellement plus beau, plus satisfaisant de faire le bien. C'est quand même étrange. Et donc, entre le diabolique dans l'homme et le chaos qui existe encore dans la nature, nous avons effectivement du travail de création à faire pour que la volonté de Dieu soit un peu plus faite sur la terre comme au ciel. Mais pour cela, d'abord, il nous faut effectivement être capable de tenir bon sans être ni abattu ni contaminé par ce chaos. Et cela demande des forces. C'est le premier point essentiel de l'apôtre Paul. Soyez fortifiés dans le Seigneur. Alors la traduction est imprécise, on est là pour ça, pour essayer de voir plus en détail. En effet, nous avons en réalité un impératif passif. Soyez fortifiés. C'est une curieuse forme verbale, parce qu'un impératif nous invite à faire quelque chose, alors que le passif nous dit que c'est quelqu'un d'autre qui agit, donc Dieu, bien sûr, pour le passif dans la Bible. C'est donc un travail d'équipe, c'est Dieu qui nous donne une force souveraine, une force au-delà de nos forces, et c'est à nous de nous ouvrir à la puissance de Dieu, à sa puissance de création et de salut qui nous donnera la puissance nécessaire. Alors nous avons effectivement un travail en équipe pour que ça soit possible. Un travail en équipe avec Dieu, nous entrons dans le Seigneur, nous dit l'apôtre Paul. Et donc nous avons effectivement des moyens, nous, que Dieu n'a pas, parce qu'il n'a pas de corps. Et donc pour aller mettre du pain sur la table d'un enfant qui meurt de faim, nous avons des mains, si vous voulez. Dieu, il va envoyer comment son pain sur la table de l'enfant qui meurt de faim. Donc nous avons des mains et Dieu a des moyens qui sont incommensurables, évidemment, mais qui sont autres. Donc c'est un travail d'équipe. Et dans cette équipe, nous nous retrouvons aussi avec des collègues en humanité avec qui nous pourrons travailler d'une belle façon. C'est le premier impératif, donc, un impératif au passif. Et puis maintenant, il y a un second impératif qui est de nous équiper, revêter toutes les armes de Dieu. Face aux méthodes diaboliques, source de destruction, de division, ce sont les armes de Dieu lui-même que nous sommes appelés à prendre, à saisir, et puis à apprendre à utiliser. La tentation, effectivement, face au chaos, c'est de rendre le mal pour le mal, et donc d'utiliser les méthodes diaboliques pensant vaincre ainsi le mal. C'est être contaminé. Et effectivement, alors le mal a déjà remporté une victoire en nous incorporant dans le camp des faiseurs de chaos. Et c'est effectivement des choses qui peuvent être tentantes. La colère et la peur, l'injustice, la frustration, la désespérance peuvent nous abattre, peuvent nous faire baisser les bras, peuvent nous rendre méchants, en colère. Tenez bon, nous dit Paul, sachant qu'effectivement ce n'est pas facile. Et pour cela, donc, de nous saisir de la panoplie. Panoplie, c'est le mot grec qui est utilisé ici, la panoplie de Dieu. Alors, ce ne sont pas des méthodes dont Paul nous propose de nous emparer, comme les méthodes diaboliques, mais ce sont plutôt des qualités d'être, celles de l'être même de Dieu, en réalité. Avant même de combattre, il nous faut donc devenir un humain christique, ne serait-ce qu'un peu, c'est-à-dire avec ces qualités d'être du Christ. La sagesse populaire nous dit que charité bien ordonnée commence par elle-même. Effectivement, c'est pas faux. C'est pas faux au sens qu'avant de faire quoi que ce soit dans ce monde, dans ce combat contre les sources du mal, nous devons d'abord penser à nous-mêmes pour nous développer avec l'aide de Dieu, afin de devenir suffisamment fort, suffisamment fier pour tenir debout, résister au mal et puis avoir l'enthousiasme de partir au combat pour faire le bien. Alors cette panoplie, c'est pas une panoplie de Zorro, vous voyez, c'est une panoplie des armes de Dieu. Elle comporte quatre armes, nous dit l'apôtre Paul. La première, c'est la vérité. Alors dans la Bible, quand on dit vérité, c'est en fait une vérité de relation. Ce mot dans l'hébreu de la Bible, il est traduit parfois par fidélité ou par vérité. C'est donc d'être dans une belle disposition vis-à-vis des autres, une belle relation, fidèle. Ensuite, il y a le deuxième point, c'est la justice. Ce n'est pas la justice qui tranche, qui tue et qui élimine ou qui laisse tomber, c'est la justice de ce qui est juste, la conscience de ce qui est juste. Et ça nous protège effectivement de la contamination des méthodes diaboliques que nous serions tentés parfois d'utiliser. La bonne nouvelle de la paix. Alors, bonne nouvelle, en grec, ça se dit évangile. Évangile, il nous propose de le porter à nos pieds comme des sandales pour avancer sans avoir trop mal aux pieds sur les cailloux de la route. C'est-à-dire que cet évangile de la paix, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer, de cheminer d'une façon positive nous-mêmes, d'une façon constructive. Et puis finalement, il y a le bouclier de la foi en quatrième. La foi, c'est donc la confiance en Dieu, confiance dans la vie qu'il nous donne, et cela nous permet effectivement de résister au tourbillon de surprise du chaos. Ça nous donne un point fixe, sûr, solide. Alors avec ces quatre armes de Dieu, il y a en fait une théologie qui est exprimée par l'apôtre Paul. Dieu est comme cela pour nous, et ça aussi, ça nous donne donc une confiance par la foi. Dieu est fidèle, il est juste, il est source de paix et il est fiable. Il n'y a pas lieu donc de craindre que Dieu cesserait d'être ainsi. Il est et il restera en notre faveur. Alors il y a là aussi un programme, bien sûr, de développement pour notre personne, fort utile pour avancer dans la vie et faire du bien, tenir bon. Nous pouvons donc travailler ces quatre qualités d'être, nous dit l'apôtre Paul, les exercer comme on fait un exercice d'assouplissement et de musculation, parce que c'est bien notre être qu'il faut ainsi équiper dans son fonctionnement, ce n'est pas simplement des armes extérieures qu'il faudrait fourbir. Il n'y a pas d'autre moyen, effectivement, que de faire cela. C'est pour ça qu'il y a un impératif, parce que même Dieu, s'il nous aime infiniment, ne peut pas être fidèle à notre place, il ne peut pas aimer la justice à notre place, il ne peut pas nous forcer à évoluer si l'évangile de la paix ne nous dit pas grand-chose, ou il ne peut pas nous forcer à espérer en lui si nous ne pensons jamais à lui. Donc ces quatre dimensions, elles pourraient nous inspirer un programme de prière. Elle pourrait nous inspirer 4 jours de retraite dans un monastère, si on a goût à ça. Mais on peut aussi préférer une prière plus spontanée, comme on parle à un ami, sans entrer dans des programmes de prière. Mais puisque nous croisons ce texte de la Bible, nous pouvons nous demander où est-ce que nous en sommes, finalement, dans cet équipement de notre être, équipement si précieux pour tenir bon. Mais déjà y penser, déjà compter sur Dieu pour nous aider à nous renforcer dans ces domaines, c'est déjà s'équiper. Et puis dans la mesure où nous, déjà, nous sommes un peu en forme dans ce domaine un peu en forme, c'est déjà immense, en vrai dire. Nous pouvons ne plus être seulement sur la défensive alors face au chaos, parce que nous tiendrons bon. Nous pouvons devenir actifs et augmenter le bien dans le monde, modestement certes, mais résolument. Et pour cela, il y a encore deux pièces d'équipement qui nous sont offertes. Recevez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est aussi la parole de Dieu. Donc le casque du salut, c'est savoir qu'envers et contre tout, nous sommes gardés. Et nous serons gardés quoi qu'il arrive, et ça inspire de l'audace. Nous sommes déjà sauvés. Et puis à l'épée de l'esprit, c'est ce qui permet de trancher, de discerner entre le vrai et le faux, entre le juste et l'injuste, entre le bien et le mal. Or, en ce monde, tout est tellement mêlé qu'il y faut bien de l'esprit pour arriver à discerner, à faire la part des choses. Alors l'esprit ou la parole, c'est dans la Bible. Cette façon que Dieu a de créer, en ajoutant du sens, donc, par la parole, en appelant à se poser des questions, comme souvent Jésus, en annonçant à chacun, donc, cette bonne nouvelle, qu'il n'y a pas besoin d'être méchant pour être grand, et encore moins pour être heureux. Le monde ne pourra être sauvé que par cette arme positive de l'esprit, de la parole de Dieu, qui fait vivre. C'est pourquoi le Christ est une incarnation de cette parole, parole que Dieu nous donne aussi, pour que nous soyons son frère ou sa sœur. Et maintenant donc, à nous de jouer vaillants héros, comme Dieu le dit à Gédéon. Amen.